André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité. Poursuivons notre petit voyage dans l'univers d'Agatha Christie. Après le meurtre de Roger Ackroyd, Black Coffee et une poignée de seigle, aujourd'hui nous allons aller à la rencontre de son héroïne Miss Marple, avec nos invités Françoise Bénard. Bonjour Françoise.
Bonjour André.
Et Philippe Merlan. Bonjour Philippe.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous pour vos lectures d'extraits de romans choisis par Françoise cette fois-ci. Et alors, qui est Miss Marple, cette vieille fille anglaise de 70 ans, dotée d'un esprit aiguisé comme un couteau à roast beef? Jane Marple vit dans le petit village imaginaire de St. Mary Mead. Une détective en fauteuil, créée pour agiter ses neurones, une tisane à la main plutôt que jouer du muscle sur les scènes de crime. Miss Marple fait partie de cette catégorie de personnages qu'on appelle détective en fauteuil, brillant et sédentaire, privilégiant l'analyse des éléments de l'affaire à l'enquête sur le terrain, il représentait un type de héros récurrent fort apprécié par les géants de la littérature policière comme Edgar Poe ou Conan Doyle. Au début du XXe siècle, Agatha Christie devient une véritable spécialiste du genre, faisant preuve d'audace et d'inspiration en déclinant le concept au féminin. Dans son autobiographie, elle dit qu'elle s'est inspirée de sa propre grand-mère qui pensait toujours le pire des gens et qui avait souvent raison. Jane Marple fait sa première apparition dans une nouvelle en 1927. Décrite au départ comme indiscrète, faisant des remarques déplacées, voire méchantes, elle revient 12 ans plus tard dans Un cadavre dans la bibliothèque avec une personnalité fortement adoucie par son auteur. Mais qu'en est-il de ses méthodes d'investigation? Dès la première enquête, elle se déplace sur la scène du crime. La méthode Marple est fondée sur l'observation. Ornithologue amateur, elle possède une paire de jumelles pour observer les oiseaux, mais elle s'en sert avant tout pour observer son voisinage et les petites intrigues qui se nouent sous son nez. C'est grâce à cette dernière activité, couplée à son art de la déduction et à son intuition redoutable, qu'elle parvient à résoudre les énigmes criminelles qui passent sous son radar. Fine psychologue, un peu commère, sur les bords, elle fait du commun des mortels son terrain de jeu favori. Miss Marple résout les énigmes auxquelles elle est confrontée par son intuition et sa connaissance de la nature humaine. À propos des affaires qu'elle est amenée à résoudre, elle a souvent la réminiscence d'histoires subalternes dont les ressorts sont identiques, mais cela ne constitue pas des preuves propres à confondre un meurtrier. La caractéristique principale de Miss Marple est en effet son apparente innocence. Elle semble, pour tout le monde, n'être qu'une gentille vieille dame qui tricote toute la journée dans son fauteuil et discute amicalement avec tout le monde sans arrière-pensée. Ainsi, chacun de ses interlocuteurs se confie à elle simplement sans se méfier, lui révélant des informations que la police n'obtient pas. Miss Marple est alors capable, avec une intelligence fine et un grand sens de la psychologie humaine qui lui est venu avec l'âge, comme elle dit elle-même, de tirer les conclusions les plus pertinentes d'une affaire et d'en résoudre l'énigme. Et souvent, par gentillesse, plutôt que de dévoiler une solution toute prête, elle donne généralement quelques observations et les indices aux policiers afin de les mettre sur la voie de la solution. C'est pourtant, la plupart du temps, à elle de tout expliquer pour élucider l'enquête. Miss Marple a tiré de sa grande expérience de la vie et de ses observations, la maxime qu'elle répète avec sagesse, la nature humaine est partout la même. Après l'affaire Proteros, publiée en 1930, Miss Marple sera l'héroïne de 11 autres romans et une poignée de nouvelles. Parmi les incontournables de ses enquêtes, on peut citer Un cadavre dans la bibliothèque, Le miroir se brisa, ou alors À l'hôtel Bertram, où elle use exceptionnellement de ses talents d'enquêtrice hors de son fief de St. Mary Mead. Elle dira de son personnage « Je n'ai aucun don particulier, aucun, sauf peut-être une certaine connaissance de la nature humaine. Saviez-vous que l'un des esprits les plus vifs du haut monde habitait le personnage d'une vieille femme aux joues roses et aux yeux bleus, séduisante et aux manières délicates ? La célèbre détective d'Agatha Christie a résolu les affaires les plus mystérieuses à l'aide de son incroyable intuition. Elle ne manque pas de lire. Cependant, l'intuition féminine fait-elle d'une femme un bon détective ? Miss Marple a vécu une longue vie calme et simple au sein d'un village paisible, mais c'est justement cette vie en apparence tranquille qui lui permet de bien connaître la nature humaine et de pouvoir déceler la jalousie, la mesquinerie, la fourberie, la noirceur ou encore le mal autour d'elle. Avec quelques personnages du village, ils se rassemblent le mardi soir et se racontent des histoires étranges, irrésolues, ou dont l'issue n'était pas vraiment prévisible. Ces sortes d'énigmes sont un jeu pour eux, et à ce jeu, c'est tout le temps Miss Marple qui gagne. Une série de petites histoires courtes, vraiment distrayantes. Françoise nous lit un court extrait de ce club du mardi, où elle est décrite par Raymond West.
Raymond West exhala une bouffée de fumée et répéta avec un plaisir non dissimulé. Des mystères, jamais éclaircis. Il regarda autour de lui avec satisfaction. La pièce avait un cachet ancien, avec de grosses poutres foncées au plafond et de bons vieux meubles en harmonie avec elle. D'où le coup d'œil approbateur de Raymond West. Écrivain de profession, il aimait que l'environnement soit sans défaut. La maison de Tante Jeanne lui avait toujours plu parce qu'elle était le juste décor que réclamait sa personnalité. Elle était assise, très droite, dans un fauteuil de grand-père, de l'autre côté de la cheminée. Miss Marple portait une robe de brocart noir très cintrée, avec de la dentelle de maline tombant en cascade sur sa poitrine et des mitaines de dentelle noire. Une mantille de dentelle noire surmontait ses cheveux blancs comme neige, relevés en chignon. Elle tricotait quelque chose de blanc, de doux, de floconneux. De ses yeux bleu pâle, très pâle, elle observait avec une aimable bienséance son neveu et les invités du neveu.
La méthode d'investigation de Miss Marple est une méthode fondée sur la déduction à partir d'un poste d'observation villageois. Toujours se référer à son expérience personnelle. C'est ce qu'un critique anglais a appelé le parallèle villageois. Pour Marple, le microcosme de St. Mary Mead sert à explorer le macrocosme, y compris quand elle se rend aux Antilles en notant les réactions des gens qui vivent dans son village, la manière dont chacun garde ses squelettes dans le placard. Elle déduit un certain nombre de choses pour des personnes dans les contextes très différents. Marple ressort toujours la bonne histoire d'avant, un cas qu'elle a lu soit dans un journal, soit dans un roman, soit dans la vie et qui lui permet d'expliquer le cas présent. Elle déduit beaucoup. Face à la nouveauté, elle la rabaisse sur un schéma déjà connu. Il y a toujours chez elle cette idée que rien ne bouge alors qu'on est en plein chaos apparent. C'est un personnage pessimiste. Elle croit en des caractères humains. Si quelque chose s'est déjà produit, cela se reproduira. De fait, le personnage de Miss Marple est donc fortement ancré au village de St. Mary Mead, dont elle s'éloigne peu. Si les notes d'Agatha Christie montrent qu'elle a envisagé d'en faire le détective de mort sur le Nil, c'est finalement Hercule Poirot qu'elle choisira pour résoudre l'énigme. Le voyage sur le Nil eût été une expédition trop hasardeuse pour Miss Marple. Pour l'enquête du major parlait trop. Toutefois, la vieille dame se rendra en Outre-mer, dans l'île imaginaire de Saint-Honoré. Voici un court extrait lu par Philippe.
À ce moment, l'orchestre typique commença à jouer. Il était une des principales attractions des villes. À la vérité, Miss Marple s'en serait fort bien passée. Cela faisait un bruit affreux, assourdissant. Le plaisir que tous les autres convives prenaient à l'écouter apparaissait, pourtant indéniable, et avec sa jeunesse d'esprit, Jeanne Marple décida que puisque cet orchestre existait, elle devait trouver le moyen, tant bien que mal, d'apprendre à l'apprécier. Elle ne pouvait exiger de Tim Kendall, qui fit renaître d'un coup de baguette magique les accords harmonieux du beau Danube bleu, valse tellement gracieuse. Vraiment curieuse la façon dont les gens dansaient aujourd'hui, gesticulant, semblant être en transe au point d'en apparaître difforme. Ma foi, il faut bien que les jeunes s'amusent.
Jane Marple est un personnage méfiant, voire paranoïaque par loisir. N'étant pas un détective professionnel mais amateur, elle n'a donc que la paranoïa qu'elle veut bien avoir. Cette idée que la nature humaine est prévisible dans le mal, qu'elle peut être qu'étonnante dans le bon, fait d'elle un personnage nihiliste optimiste. Chaque fois qu'elle résout une enquête, cela conforte son sentiment que la nature humaine est mauvaise. Mais quand elle tombe sur un gentil couple de jeunes fiancés là, elle consent à donner encore une chance à l'humanité. Comme elle a toujours tout prévu, elle ne peut qu'être paranoïaque. C'est un mode d'être chez elle, comme les muffins le thé. Voici des extraits de Un cadavre dans la bibliothèque, la préface du livre écrite par Agatha Christie, lue par Françoise, et en suivant Philippe pour un extrait du chapitre 1.
Certains clichés s'attachent à certains types littéraires. Le personnage du baronnet libertin au mélodrame, le cadavre dans la bibliothèque au roman policier. Voilà longtemps déjà que je caressais l'idée de m'essayer à des variations sur un thème donné. Je m'étais, pour ce faire, imposé certaines règles. La bibliothèque en question devrait être archibanale et conventionnelle. Le cadavre, au contraire, complètement extravagant et faire sensation. Telles étaient les données du problème. Mais le tout est resté en sommeil pendant des années à l'état de notes jetées sur un cahier. Puis un été, dans un élégant hôtel du bord de mer où je séjournais, j'eus l'occasion d'observer un groupe à l'une des tables de la salle à manger. Un vieil infirme, dans son fauteuil roulant, était entouré de membres de sa famille plus jeunes de génération. Heureusement, ils partirent le lendemain, si bien que mon imagination put exprimer librement sans être bridée par les entraves de la connaissance. Quand on me demande « Mettez-vous dans vos romans des gens qui existent dans la vie réelle ?» ma réponse est qu'écrire sur le compte de quelqu'un que je connais ou à qui j'ai parlé ou même dont j'ai simplement entendu parler m'est rigoureusement impossible. J'ignore pourquoi, mais ceux-là se sont fichus de moi. Par contre, je peux fort bien emprunter un mannequin et l'habiller de caractéristiques issues de mon imagination. C'est ainsi qu'un vieillard infirme devint le pivot de l'histoire. Le colonel Bantry et sa femme, vieux amis de cette chère Miss Marple, possédaient justement le genre de bibliothèque requis. À la manière d'une recette de cuisine, il ne me restait qu'à ajouter les ingrédients suivants. Un moniteur de tennis, une jeune danseuse, un cinéaste, une éclaireuse, une entraîneuse, etc. Et à servir le tout à la Marple.
Le téléphone de Miss Marple sonna tandis qu'elle s'habillait, ce qui, vu l'heure inhabituelle, l'a mis quelque peu en émoi. Sa vie rangée de vieille demoiselle était tellement réglée que les appels téléphoniques inattendus étaient source de vives conjectures. Ça, par exemple, fit-elle en orniant d'un œil perplexe l'appareil qui insistait. Mais qui cela peut-il bien être? De 9h à 9h30 du matin, tel était le créneau généralement admis au village pour les appels amicaux entre voisins. Les projets de la journée, les invitations, tous se discutaient à ce moment-là. On savait qu'il était arrivé au boucher de téléphoner juste avant 9h lors d'exceptionnelles difficultés d'approvisionnement. Un coup de fil accidentel pouvait survenir pendant la journée, mais il était toujours mal vu d'appeler après 9h30 du soir. Il est vrai que le neveu de Miss Marple, écrivain, donc farfelu, s'était déjà manifesté aux heures les plus aberrantes, une fois même à 9h10. Mais, quelles que soient ses excentricités, Raymond West n'avait pas celle de se lever le matin. Ni lui, ni aucune des connaissances de Miss Marple n'était susceptible d'appeler avant 8h du matin. 8h moins le quart, en fait. Trop tôt pour un télégramme, même, puisque la poste n'ouvrait qu'à 8h. « Tout doit être une erreur », décida-t-elle. Cette certitude acquise, elle se dirigea d'un pas résolu vers l'appareil impatient et coupa court à ses tris en décrochant le combiné. « Oui !» fit-elle. « C'est vous, Jane ?» Stupeur de Miss Marple. « Oui, c'est moi, oui. Vous êtes bien matinale, Dolly. » La voix de Miss Brantley lui parvint haletante de l'autre bout du fil. « Il est arrivé quelque chose de terrible. Seigneur Dieu, nous venons de trouver un cadavre dans la bibliothèque. » L'espace d'un instant, Miss Marple crut que son ami avait perdu la raison. « Vous avez trouvé un quoi ?»« Je sais, ça paraît incroyable, n'est-ce pas ? Je pensais que ces choses-là n'arrivaient que dans les romans. Il m'a fallu des 13 heures pour convaincre Arthur de descendre voir. » Miss Marple essaya de rassembler ses esprits. « Mais c'est le cadavre de qui ? » demanda-t-elle, suffoquée. « Une blonde. »« Une quoi ? » ?»« Une blonde. » Une blonde sculpturale comme dans les romans, encore une fois. Aucun de nous ne l'avait jamais vue. Elle était allée là, dans la bibliothèque, tout ce qu'il y a de plus morte. Il faut que vous veniez tout de suite. Moi, mais vous voulez que je vienne ? Mais oui, j'envoie la voiture vous prendre. Miss Marple ne paraissait guère enthousiaste. Bien sûr, ma chère, si vous croyez que je peux vous prodiguer un peu de réconfort, oh, ce n'est pas de réconfort que j'ai besoin. Mais vous vous débrouillez si bien avec les cadavres. Bah, pas du tout, voyons. Mes petits succès n'ont toujours été que purement théoriques. Non. Question meurtre, vous êtes inégalable. Et c'en est un, voyez-vous. Elle a été étranglée. Moi, je suis d'avis que quand on a assassiné chez soi, autant en profiter, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que je vous appelle, pour m'aider à démasquer le coupable, à élucider le mystère et tout, quoi. C'est follement excitant, non ? Oui, bien sûr, si je peux vous être utile.
L'enquête s'établit, et Miss Marple s'entretient avec Sir Henry Clithering, ancien détective de Scotland Yard, aujourd'hui retraité. Voici un extrait du chapitre 8 du Un cadavre dans la bibliothèque, avec Philippe dans le rôle de sœur Henri et Françoise dans celui de Miss Marple. Pour ma part, je dirais les didascalies. Miss Marple rougit de plaisir lorsqu'elle vit sœur Henri venir droit sur elle.
Ah, sœur Henri, c'est vraiment de la chance de vous rencontrer ici.
Pour moi, c'est un plaisir.
Trop aimable.
Vous résidez à l'hôtel ?
Oui, en fait, nous sommes deux.
Deux ?
Mrs. Bantry est là également. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé ? Oui, je vois que oui. C'est affreux, n'est-ce pas ?
Dolly Bantry ? Mais qu'est-ce qu'elle est venue faire, hein ? Et son mari aussi ?
Oh non ! Ils ont bien évidemment tous deux eu des réactions très différentes. En cas de problème, le colonel Bantry s'enferme dans son cabinet de travail ou part visiter l'une de ses fermes, le pauvre. Comme la tortue, voyez-vous, qui rentre la tête dans sa carapace en espérant qu'on ne la verra pas. Avec Dolly, vous vous en doutez, c'est tout autre paire de manches.
Elle, ça l'amuserait presque.
Bien, oui, pour la pauvre chérie.
Elle vous a amené ici pour que vous lui trouviez la solution miracle ?
Dolly a pensé qu'un changement de décor lui ferait du bien et ne voulait pas partir seule. Mais bien sûr, ce que vous dites est tout à fait exact. C'est même embarrassant pour moi. Je ne le suis d'aucune utilité.
Pas d'idée ? Pas de parallèle avec les gens du village ?
J'en sais encore si peu sur cette affaire.
Je crois que je peux remédier à cela. Je vais vous appeler en consultation, Miss Marple.
Sir Henry lui fit un bref exposé des faits. Miss Marple écouta avec un vif intérêt.
Pauvre Mr. Jefferson, quelle triste histoire. C'est terrible, ces accidents. Rester sain seul et infirme à vie, ça paraît encore plus cruel que de mourir avec les siens.
Absolument. Et tous ses amis l'admirent pour le courage avec lequel il a repris le dessus, dominer sa douleur, son chagrin et son infirmité.
Oui, c'est admirable.
Ma seule chose que je n'arrivais pas à comprendre, c'est ce soudain débordement d'affection pour cette fille. Elle avait peut-être des qualités remarquables après tout.
J'en doute fort.
Vous ne croyez pas ?
Je ne crois pas que ses qualités soient entrées en ligne de compte.
Conway n'a rien de vieux satire, vous savez.
Oh non ! Je ne voulais rien insinuer de tel. Ce que j'essayais de dire, fort mal, je m'en rends compte, c'est qu'il cherchait seulement une adolescente saine de corps et d'esprit pour prendre la place de sa fille défunte, que cette Ruby a vu là sa chance et qu'elle a joué le tout pour le tout. Vous allez me trouver bien cynique, je sais, mais j'ai vu tant d'affaires de ce genre. La jeune bonne à tout faire de Mr. Abartol, par exemple. Une gamine, tout ce qu'il y a de quelconque, mais sans histoire, bien élevée. La sœur de ce monsieur part s'occuper d'un parent malade et, à son retour, elle trouve la fille pleine d'arrogance qui trône au salon, qui parle, qui rit, qui a jeté aux orties et sa coiffe et son tablier. Miss Arbuttle lui en fait sèchement la remarque. La gamine répond avec insolence et ne voilà-t-il pas que le veuf monsieur Arbuttle déclare à sa sœur abasourdie qu'elle régentait la maison depuis assez longtemps comme ça et qu'il avait pris d'autres dispositions. Scandale au village, comme bien vous pensez. N'empêche que la pauvre Miss Arbuttle a bel et bien dû céder la place pour s'en aller vivoter dans un garni d'Isbourne. Les gens ont jasé, bien sûr, mais je ne pense pas qu'il y ait eu de relations intimes. Le vieil homme trouvait simplement beaucoup plus agréable d'entendre une jeune fille toujours gaie lui répéter combien il était intelligent et spirituel, que sa sœur ne lui cesse de lui faire remarquer ses défauts. Aussi compétente fut-elle pour gérer le budget familial.
La plume empoisonnée, titre original The Moving Finger, est publié en juillet 1942 aux États-Unis, mettant notamment en scène Miss Marple, puis il est publié ensuite en juin 1943 au Royaume-Uni et en 1949 en France. En résumé, Reggie Burton, blessé pendant la bataille d'Angleterre, est en convalescence quelques mois avec sa sœur Joanna à Limstock, petit village de la campagne anglaise. Les deux jeunes gens ont à peine le temps de faire connaissance des pittoresques habitants que des lettres anonymes commencent à diviser la petite communauté. Finalement, Miss Symington, l'épouse du notaire, se suicide après avoir reçu l'une de ces lettres. Et c'est alors que la femme du pasteur, la très énergique et excentrique Miss Dane Calthorpe, décide de faire appel à un expert en la personne de Miss Marple qui vient discrètement séjourner chez elle et faire la lumière sur cette affaire. Mais cette dernière passe une mauvaise nuit et voici un extrait du chapitre 8 où la mauvaise nuit de Miss Marple, souvent en proie des rêves plus ou moins prémonitoires.
Je passais une mauvaise nuit. Sans doute, l'assemblage du pulse continuait-il à me tourmenter. Je crois que si je m'y étais attelée, j'aurais pu, dès cet instant, en venir à bout. Sinon, pourquoi ces détails me poursuivaient-ils avec autant d'insistance? Que savions-nous à ce moment-là? Bien davantage que nous le pensions, du moins à mon avis. Mais c'était un savoir souterrain. Il était là, mais nous n'y avions pas accès. Je me tournais, me retournais dans mon lit, en proie à la torture que m'infligeait mon impuissance à marier entre elles les pièces d'un puzzle au contour mouvant. Si seulement je pouvais en saisir le modèle, qui existait forcément, qui diable avait écrit ces satanées lettres? Je devrais pourtant bien le savoir. Il y avait une piste quelque part. Il fallait que je la découvre. Tandis que je m'assoupissais enfin, les mots se mirent à danser en sarabande infernale dans mon esprit enfiévré. Pas de fumée sans feu, pas de feu sans fumée. Fumée, fumée, écran de fumée. Non, ça c'était la guerre. Un terme de guerre, la guerre. Bout de papier, rien qu'un bout de papier, Belgique, Allemagne. Je m'endormis. Je fis un rêve où je promenais au bout d'une laisse Madame Dane Calthorpe, transformée en lévrier. Je fus réveillée par une sonnerie de téléphone, une sonnerie insistante. Je m'assis dans mon lit et consultai ma montre. Il était 7h30. On ne m'avait pas encore appelée. Le téléphone continuait à sonner en bas dans le vestibule. Je me levai d'un bond, enfilai un peignoir et dévalai l'escalier. Je battis d'une courte tête Partridge qui sortait de la cuisine. J'empoignais le combiné. Allô ?
Je vous en prie, venez, venez ! Oh, je vous en supplie !
Le miroir se brisa. Le titre original, The Mirror Cried From Side to Side, est un roman policier d'Agatha Christie, publié le 12 décembre 1962 aux États-Unis et mettant en scène Miss Marple. Et puis en septembre 1963, aux États-Unis sous le titre simplifié de The Mirror Cracked, et la même année en France. Alors là, c'est Jason Rudd, un réalisateur renommé, et sa femme, la célèbre actrice Marina Gregg, qui viennent s'installer dans le village de St. Mary Mead pour tourner un prochain film. Peu de temps après, une réception est donnée dans leur demeure à l'occasion de la fête des ambulanciers de St. John. La secrétaire de l'association St. John, par ailleurs grande admiratrice de Marina Gregg, trouve la mort après l'absorption en pleine réception d'un tranquillisant légal, mais néanmoins mortel, à forte dose. Un inspecteur de Scotland Yard, Dermot Craddock, est alors envoyé sur place pour élucider ce meurtre, dont la victime aurait dû être, selon toute vraisemblance, Marina Gregg, épaulée par une Miss Marple vieillissante, mais toujours alerte et forte de sa connaissance de la nature humaine, il va se plonger dans la vie privée de la star, où la vérité n'est pas toujours là où on l'attend. Voici un extrait de la première partie de Miss Marple dans son jardin, avec son tricot, sur la fin de sa vie.
Miss Marple était assise à sa fenêtre, laquelle donnait sur son jardin longtemps pour elle une source d'orgueil et de satisfaction. Tel n'était plus le cas désormais. Le visage de la vieille demoiselle se crispait chaque fois qu'elle regardait. Cela faisait un effet belle lurette que tout jardinage lui était interdit. Plus question pour elle de se baisser, de biner ni de planter. Tout au plus, lui était-il permis ça et là de tailler une branche folle, pourvu qu'elle soit à la hauteur de sa main. Le vieux Laycock, qui venait trois fois par semaine, faisait bien évidemment de son mieux, mais ce mieux-là, encore qu'il n'eût pas de quoi en faire un plat, obéissait à ses critères à lui et ne prenait guère en compte les goûts de la maîtresse d'océan. Miss Marple savait très exactement ce qu'elle voulait y voir faire, et quand elle voulait qu'on lui fasse, et elle en informait avec force et détail et explication, à quoi le vieux Laycock réagissait immanquablement avec son génie bien particulier. Acquiescement enthousiaste en aucun cas suivi d'effet. Miss Marple détourna son regard du jardin et reprit son tricot. Il fallait regarder la réalité en face. St. Mary Mead n'était plus du tout ce qu'il avait été. Dans un sens, rien n'est jamais plus ce qu'il était. Libre à tout un chacun d'en accuser la guerre, les deux en l'occurrence, la jeune génération, les femmes qui travaillent, la bombe atomique et en dernier ressort, le gouvernement. Alors que la réalité, c'est qu'on vieillit. Miss Marple, qui avait oublié d'être bête, le savait fort bien. À ceci près, c'est que c'était à St. Mary Mead, sans doute, parce qu'il y avait longtemps vécu, qu'elle ressentait plus que partout ailleurs les outrages du temps. Marple poussa une brève exclamation de mécontentement. Elle avait encore sauté une maille, oui. Qui plus est, elle devait l'avoir sauté depuis un bon moment déjà. Et ce n'était que maintenant, alors qu'il lui fallait les recompter avant d'attaquer les diminutions du coq, qu'elle s'en avisait. Là-bas, prit une aiguille, plaça son tricot à la lumière et s'arracha les yeux à essayer de trouver l'origine de défaut. Même sa nouvelle paire de lunettes ne l'avançait à rien. Et ça, réfléchit-elle, ça tenait à ce qui vient un moment où, en dépit de leur salle d'attente luxueuse, de leur instrument à la pointe du progrès, des lumières éblouissantes où vous martyrise la rétine et des honoraires ahurissants qui vous soutirent, les ophtalmologistes ne peuvent plus grand-chose pour vous. Miss Marple songeait, non sans quelque nostalgie, autant si proche encore, mais à tout prendre pas si proche que ça, où sa vue portait en l'infini. Du promontoire de son jardin, idéalement situé pour se réveiller tout ce qui se passait à St. Mary Mead, bien peu avait échappé à son œil acéré. Et avec l'aide de ses jumelles d'observatrices d'oiseaux, elle avait été à même de voir. Elle s'abandonna, laissant libre cours aux images de son passé.
Selon Agatha Christie, Miss Marple aurait été préfigurée par Caroline Shepard, la sœur du narrateur et son personnage préféré dans Le meurtre de Roger Ackroyd, une vieille fille caustique, curieuse, sachant tout, entendant tout, la parfaite détective à domicile. Miss Marple résout les énigmes auxquelles elle est confrontée par son intuition et sa connaissance de la nature humaine à propos des affaires qu'elle est amenée à résoudre. Elle a souvent la réminiscence d'histoires subalternes dont les ressorts sont identiques. Mais cela ne constitue pas des preuves propres à confondre un meurtrier. Ainsi, 8 des romans mettant en scène Miss Marple se terminent par un chapitre artificiel dans lequel un piège est tendu à l'assassin qui se trahit ainsi. Le ressort littéraire et dramatique est fréquemment utilisé par Agatha Christie dans nombre de romans où apparaît le personnage d'Hercule Poirot également, dont nous parlerons dans une prochaine émission. Le personnage emblématique et indissociable de l'œuvre d'Agatha Christie, Miss Marple, se paiera le luxe de damer le pion à Hercule Poirot en refermant l'imposante bibliographie de son auteur avec son ultime roman écrit en 1940, publié post-mortem en 1976 sous le titre évocateur de « La dernière énigme ». Les personnages d'Hercule Poirot et Miss Marple ne se rencontrent jamais dans les romans de la célèbre auteure britannique. Merci Françoise et merci Philippe. À la semaine prochaine avec Hercule Poirot.
Merci André. Au revoir les auditeurs, à bientôt.
Au revoir également et avec plaisir de vous avoir encore.
Notre émission est maintenant terminée. Voici la citation du jour. Aimer passionnément un autre être humain cause d'ordinaire plus de peine que de joie. Néanmoins, celui qui n'a pas vraiment aimé n'a pas vraiment vécu. Elle est bien sûr d'Agatha Christie. Vous retrouverez toutes ces informations et bien d'autres sur le site de l'Union Régionale FCTA-midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, vous connaissez mon téléphone 05 61 42 45. Allez voir le théâtre amateur, c'est du théâtre de qualité, joué, mis en scène, éclairé, sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.